48FM. 48FM. 48FM Amende. C'est sur le 94.1.
L'Oz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
L'Oz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Oz Actuali, le nouveau magazine de 48FM.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce numéro 5 de L'Oz Actuali. Oula, il y a de la friture en ligne un peu. Tiens, c'est bizarre.
C'est les flocons de neige.
Oula, là, oui, ça souffle un peu. Bon, oula, là, puis en plus ça part, ça, c'est n'importe quoi. Cette émission parle mal, c'est la neige effectivement qui nous perturbe un peu. Allez, j'ai trouvé le micro qui était le chat noir de l'histoire. On va pouvoir commencer avec aujourd'hui une invitée qu'on accueille. Bonjour Élodie Guilloton. Voilà, c'est elle qui a le micro qui marche pas, donc on va passer sur celui-là. Voilà. Et donc, bah, l'équipe est là, pas au complet. Hein. Bonjour Caroline, bonjour Eric.
Bonjour tout le monde.
Voilà, et on retrouvera Adeline avec des capsules qu'on a enregistrées dimanche. On n'était pas sûr du hashtag pour aujourd'hui. Et finalement.
Il y a eu du buzz sur le net.
Et finalement, on a eu gain de cause. Vous entendrez ça tout à l'heure. Le temps est avec nous. Voilà un petit indice. Au programme aujourd'hui, donc, on va parler de ressourcerie avec l'art récup. On parlera aussi, Eric, d'un drôle d'oiseau.
Oui, qui a fêté ses 100 ans.
Voilà, vous retrouverez qui c'est aussi.
Alors, c'est pas Lucky Luke, hein, parce qu'il n'en est qu'à 70.
Chronique que tu proposeras, Caroline, je vais y arriver, c'est un peu dur aujourd'hui, sur l'actualité télé de la semaine.
Le buzz télé de la semaine.
Ouais, dès que j'ai vu l'info, je te l'ai balancé.
Tu n'as pas été le seul, je
Voilà, et puis donc, la chronique hashtag qu'on retrouvera, et puis une revue de presse où il sera question de Rembrandt créé par intelligence artificielle, des élections américaines, de la situation à ITLE, du 7 novembre 16h34. Donc plein de choses pour cette belle émission. Et on commence donc avec Élodie Guilloton. Bonjour, on s'est dit déjà tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez déjà vous présenter un petit peu, nous dire qui vous êtes, d'où vous venez, qui êtes-vous? On veut en savoir un petit peu plus.
Alors, qui je suis? Je suis une femme de 30 ans qui est née en Suisse, et je le précise parce que ça a aussi un impact sur mon projet aujourd'hui qui est dans le domaine environnemental et sur ma culture. J'ai grandi en Suisse jusqu'en 2000 et puis j'ai déménagé en France et j'ai un peu voyagé en France et puis aussi à l'étranger. Voilà, que dire de plus? Une professionnelle plutôt du social et qui a des valeurs liées à l'environnement aussi.
Et en Lozère depuis combien de temps?
En Lozère depuis 2010.
Et donc l'envie de travailler sur un... sur un projet qui met du social avec d'autres choses.
Exactement. Ça fait presque 10 ans que j'ai cette idée qui a germé, et puis maintenant elle a poussé, et puis j'espère que ça va se concrétiser très prochainement. Donc l'idée de départ, c'était de créer une ressourcerie sous forme d'atelier chantier d'insertion pour allier l'utilité environnementale de l'activité pour aider les personnes en fait en insertion à retourner vers l'emploi en leur proposant une activité qui a du sens, qui fait sens. Et donc du coup, j'ai eu des expériences dans diverses ressourceries. Alors peut-être pour repréciser le concept de la ressourcerie, puisque c'est pas forcément connu par tous. Une ressourcerie, donc c'est un terme déposé. Il y a un réseau national des ressourceries. Et pour être une ressourcerie, il faut être une structure de l'économie sociale et solidaire et collecter, valoriser, vendre des objets d'occasion qui ont été donnés par des particuliers ou des entreprises. Et de manière assez transversale, sensibiliser le public à d'autres manières de consommation pour réutiliser, redonner une deuxième vie à des objets pour éviter de consommer à outrance et de jeter à outrance. Voilà sur le concept de la ressourcerie et donc des expériences dans plusieurs ressourceries et puis mon métier de conseillère en insertion ont fait que j'ai envie d'allier ces deux types de structures pour en faire une en Lozère. Et voilà, donc ça fait depuis le début d'année que je mène une étude action qui a été portée par l'association Alloès, qui elle est dans le domaine de l'insertion et qui était favorable à l'émergence d'une nouvelle structure d'insertion. Et donc il m'a donné la possibilité de mener cette étude pour vérifier la pertinence, la faisabilité de ce projet. Et donc l'association qui portera la ressourcerie ne sera pas Alloès, c'est une nouvelle association qui vient d'être créée, qui s'appelle donc la Récup. Et la récup signifie donc l'atelier du réemploi, de la création et du upcycling. Le upcycling, c'est la notion de recycler vers le haut, de redonner de la valeur à des objets qui n'en avaient plus forcément.
Alors, il faut quand même préciser que le choix de cet invité se fait entre ce lundi 7 novembre où à Mende se tenait la journée de l'économie sociale et solidaire.
Et on est dans le mois de l'économie sociale et solidaire.
Hein. Donc c'est le mois, voilà.
Sachant qu'il y aura un autre événement, je vous l'annonce aussi. C'est un événement régional qui implique 48FM, puisqu'il y aura une émission plateau régional depuis nos nouveaux locaux de Montpellier au niveau de la Fédération des radios associatives, pour parler aussi des radios associatives, acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et ça sera le 22 novembre. Voilà. Ce mois de l'économie sociale et solidaire.
Et effectivement, samedi, le salon de la récup à Mende.
Et du réemploi.
Et du réemploi de la
récup. Dans la façon upcycling, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Donc voilà, on est vraiment dans l'actu chaud
de
tout ça. Et au lendemain de la primaire local, écologiste, oui. On en dira peut-être un mot.
Et au début de la COP 22,
comme
le faisait remarquer Eric hier.
Alors un sujet que les politiques ont tendance à ne pas vouloir inviter, visiblement, dans la campagne de demain, mais qui s'invite quand même fortement dans l'actualité de ce mois.
Voilà, bon, on aura l'occasion, dans la deuxième partie de cette interview, de parler un petit peu plus de ce projet. Et tout de suite, la chronique d'Eric, ça va être juste après ça. On fête donc un anniversaire, Eric.
C'est ça. Donc, malgré son grand âge, il n'a rien perdu de sa verve. Donc, voilà, je tiens à souhaiter un très bon 100e anniversaire au Canard Enchaîné. Donc, pour l'occasion, le journal aurait pu faire les choses en grand, pensez-vous ? Mais non, justement, ils l'ont fait très discrètement déjà dans un premier temps. Ils ont juste sorti un numéro spécial avec juste 4 pages dedans. Mais depuis, non, ils ont changé. Ils ont vraiment sorti le livre sur les 100 ans avec au moins 2000 articles et dessins qui répertorient leurs 100 ans d'histoire. Alors pour justement la petite histoire, le Canard a été créé pendant la Première Guerre mondiale, période pendant laquelle la presse est à la fois vecteur de propagande et victime de la censure militaire. Donc Maurice Maréchal propose alors à un dessinateur de presse de le rejoindre pour créer un journal engagé et différent, ni de droite ni de gauche, mais d'opposition. Bon, après, ils sont quand même un petit peu de gauche dans les coins. Donc voilà, la première version...
Oui, mais il tape aussi à gauche.
Et il tape dans...
Voilà, il tape de... Oui. Il tape de dans tous ça. Les bords, c'est
il
ça
qui... Il aime bien châtie bien, hein.
Ni de droite, ni de gauche. C'est bien ça, mais voilà. Petite tendance, après. Donc la première version, donc c'est arrêté au bout de 5 numéros, mais pour mieux revenir quelques mois plus tard, avec un credo qui ne s'est jamais démenti depuis... Amuser en informant avec pour objectif de moquer les puissants et dénoncer. Donc ce palmipède, qui a été un animal des plus fidèles avec seulement 4 directeurs dans toute son histoire, c'est ça aussi l'esprit canard. Bon, à ne pas confondre avec l'esprit canal, qui ressemble de moins en moins à ce qu'il était, lui.
Ça, c'est sûr.
Donc revenons.
On en parlera tout à l'heure.
C'est ça. Revenons à notre célèbre volatile, grâce à qui ou à cause de cette fidélité, on connaît quelques marques de fabrique. Donc déjà, il y a cette maquette qui est reconnaissable entre toutes, avec une certaine pagination, qui ça a été inchangé depuis des décennies, en fait. C'est toujours la même pagination depuis tout le temps, presque. Enfin, nous, dont on se souvient, l'absence totale de publicité et l'indépendance chevillée aux plumes et un certain souci de la transparence vis-à-vis de ses électeurs,
Oula, oui, joli l'absence. C'est vraiment
mais c'est vrai que c'est quand même un des rares journaux aujourd'hui qui ne dépendent que de ses lecteurs pour son financement.
C'est ça. Et après, il faut voir en plus que la diffusion est de presque 400 000 exemplaires. 400 000 exemplaires à chaque fois. Donc voilà, ça pulvérise aussi les plus gros quotidiens et hebdomadaires. Ouais. Donc voilà, cette institution. Donc, après, je ne suis pas sûr qu'ils aimeraient qu'on les appelle comme cela, mais c'en est quand même une institution. Elle a aussi connu des crises, un nombre de contrôles fiscaux incalculables. On se demande bien pourquoi. Après, la dernière crise en date, c'est la disparition tragique de Cabu, donc dans l'attentat de Charlie. Mais après, voilà, ils ont su à ce moment-là nous rappeler une de leurs devises, c'est de s'indigner, puis en rire, essayer d'en rire en tous les cas, en rire, et c'est hautement plus difficile, mais autrement plus efficace. Donc voilà. Après, ils continuent toujours avec leurs points forts, c'est la liberté de toute influence, les informations hyper vérifiées, parce que je crois qu'ils ont eu des milliers de procès et ils n'ont pas dû en perdre beaucoup. Et ils sont permis de n'épargner justement personne, donc les autorités politiques, les militaires, les religieux, les diplomates, les académiciens, les intellectuels. En fait, oui, tout le monde en a pris pour son grade. Et après, là, si, peut-être que vous vous souvenez, vous, autour de la table, de certains scoops canard.
Pas forcément, mais...
Parce qu'il y a des scoops qui sont vraiment très... qui ont marqué un peu l'histoire.
Non, ça me vient pas, là. Mais, les diamants de Kadhafi, non?
Non, pas de Kadhafi.
Pas de Kadhafi,
de Bokassa.
De Bokassa, oui, exactement.
C'est ça. Donc ça, c'était le président, encore président, Valéry Giscard d'Estaing, qui avait reçu des diamants du dictateur et empereur centrafricain Jean-Bédel Bokassa. Donc il faut savoir que 2 ans après, Valéry Giscard d'Estaing perdait les présidentielles. Est-ce que c'est un rapport de cause à effet? C'est aussi le canard enchaîné qui avait dénoncé l'affaire Papon pour la déportation des Juifs de Bordeaux. Donc c'est le canard enchaîné qui avait les premiers à porter les preuves. Il y a eu aussi la célèbre affaire Bérégovoy, dont on se souvient. Trois mois après cette affaire, donc le Premier ministre qui se suicidait. Et donc François Mitterrand qui reprochera alors à la presse d'avoir livré aux chiens l'honneur d'un homme. Un peu plus près de nous, donc il y a eu en 2011 l'affaire Alliot-Marie, qui a eu des vacances grassement payées en Tunisie pendant le début des révoltes arabes. Donc voilà, après, pour être un peu moins politique, ils ont aussi dénoncé l'affaire du Pékin Express. Il y en a qui aiment bien la télévision ici. Donc c'est eux qui avaient démontré que M6 essayait de favoriser certains candidats qui passaient mieux à la télévision. Donc voilà.
Et oui.
Et c'est pareil, donc voilà, ils ont des sources un peu de partout, donc là, ils viennent même d'annoncer qu'ils avaient des sources au plus haut de l'État, vu que même le grand Charles de Gaulle leur avait apporté des informations pour tout ça, voilà. Donc voilà, ces 100 ans de journalistes sont un peu une partie de l'histoire de la France, avec surtout bon, des dénonciations d'affaires politico-politiques, mais aussi d'autres combats, donc le colonialisme, le fascisme, la cause des femmes, les affaires financières, les guerres, les médias, les mondiaux de foot... Donc voilà, et tant qu'il paraîtra tous les mercredis dans nos kiosques, je crois bien que cela voudra dire que la démocratie n'est pas encore complètement foutue. Donc encore longue vie au canard enchaîné.
Merci Eric pour cette chronique. Et voilà, ça fait toujours du bien de parler d'un titre de presse et de défendre un média. Et on en parlera tout à l'heure, on continuera avec un autre média, cette fois-ci audiovisuel. C'est le moment de...
Beaucoup moins indépendant.
Oui, beaucoup moins indépendant. Et justement, c'est bien ça.
La rédaction souffre.
Et c'est bien ça qui pose problème. Première couverture musicale de cette émission. Et donc, c'est notre invité qui choisit pour la première coupure. Et donc, vous nous avez demandé « Salut à toi, des orgues de Warbach et des hurlements de Léo ». Alors, pourquoi ce choix?
Le côté ouverture sur... le monde et sur les autres.
Allez, c'est parti.
Bonsoir, c'est les hommes de Barbac, les hurlements de Léo, ça s'appelle un air de famille. Ouais.
toi l'Algérien, salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit Indien, salut à toi punk iranien,
salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident, salut à toi le Chilien, salut à toi le petit Malien, salut à toi le Mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi l'Éthiopien, salut à toi le Tchadien,
salut à vous les partisans, salut à toi la Cholie allemande, salut à toi le Vietnamien, salut à toi le Cambodgien, salut à toi le Japonais, salut à toi le Thaïlandais, salut à toi le Laotien, salut à toi le Coréen,
salut à toi le Polonais, salut à toi l'Irlandais, salut à toi l'Européen, salut à toi le Mongolien, salut à toi le Hollandais, salut à toi le Portugais, salut à toi le Mexicain, salut à toi le Marocain,
salut à toi le Libanais, salut à toi le Pakistanais, salut à toi le Philippin, salut à toi le Jamaïcain, salut à toi le Guyanais, salut à toi le Togolais, salut à toi le Guinéen, salut à toi le Guadeloupéen,
salut à toi le Congolais, salut à toi le Sénégalais, salut à toi l'Afro-Cubain, salut à toi le Portoricain, salut à toi la Haute-Volta, salut à toi le Nigérien, salut à toi le Gabonais, salut à toi le Vichtimi,
salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Pertaga, salut aussi à la Banda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi
Skid communiste,
salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le Sandiniste, salut à toi le Nijambiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut le PK du contingent, salut à toi le Chocotan, salut à toi le peuple canaille, salut à toi le Tchécoslovaque, salut à tous les petits dragons, salut à toi qui est Japon, salut à toi le chef bagage, salut à toi le peuple basque, salut à toi le Jean Violon, salut à toi le Morocco,
salut à toi le Yougoslave, salut à toi le voyou slave, salut à toi le Salvador, salut à toi le Molodoy, salut à toi le Chinois, salut à toi le Zaïrois, salut à toi l'Espagnol, salut à toi le Ramachon,
salut à toi le Hongrois, salut à toi l'Iroquois, salut aussi à tous les Gosses, les Éboignés jusqu'à l'Écosse, salut à vous tous les Azous, salut à la
jeune Carte Rouge,
salut à toi le peuple Corse, salut aussi les Crésidents, salut à toi la Vache qui salut à l'Orient et l'Arabie, salut à toi peuple nomade, salut à tous les Kamaouais, salut à tous les Tigres, salut aussi à nos Maïdeurs, salut à toi l'Orient, salut jeunesse du Pensée.
Salut à toi tonton Amber, salut à toi Kélamas, salut aussi à Fantomas, salut à toi Rocher des Prés, salut à toi l'Endimanché, salut à tous les paysans, salut aussi à Ramoncor, salut à toi, salut à toi.
Et voilà, vient le moment compliqué dans cette émission, le moment où nous mangeons en même temps que nous vous parlons. Nous allons donc essayer d'avoir une interview à peu près correcte avec Élodie Guilloton.
Pour qui elle parler... a arrêté de manger pour, ça. Pour mieux vous parler.
Pour parler donc de la récup, projet de ressourcerie. Alors vous avez un jeu qui est en cours sur Facebook, sur le Facebook de 48FM pour gagner des places pour Un Pollo Rojo. Voilà, Théâtre Physico, c'est demain, mercredi 9 novembre à 20h30,
au Théâtre de Mende. Voilà, vraiment faut... à jouer et à y aller.
Théâtre argentin.
Ouais. Ouais, a priori,
exotique.
10 ans de guichet fermé.
Voilà,
hein,
c'est ça.
10 ans. Ouais.
Donc vraiment, n'hésitez pas à jouer. Le premier, évidemment, qui répond à la question qui a été posée sur le Facebook, gagne une place. Hein, voilà, et puis on rejouera tout à l'heure. Après la deuxième coupure musicale.
Voilà, et n'hésitez pas à nous laisser vos petits messages sur Twitter.
Ah voilà, avec le hashtag Los Actuali, ou 48FM, tout ce que vous voulez, allez-y, n'hésitez pas.
Interpellez-nous.
Voilà. Allez, donc on continue donc avec ce projet, la récup. Alors, on a parlé du concept en général de ressourcerie. Alors, qu'est-ce que c'est le projet finalement de la récup en Lozère?
Alors, le projet, c'est donc d'ouvrir un lieu. La ressourcerie, ce sera avant tout un lieu, et pas que un lieu commercial, aussi un lieu de transmission de savoir-faire, de sensibilisation, de convivial. Vraiment, l'aspect convivial du lieu, on le met beaucoup en avant parce qu'on n'a pas envie que les gens viennent seulement pour consommer, puisque notre idée, c'est quand même aussi de... Alors, pas lutter contre la consommation, mais de promouvoir des changements de comportement des consommateurs. Et donc, ils puissent se retrouver pas seulement pour consommer, mais aussi pour échanger sur les divers sujets qui sont liés à l'environnement, à la réduction des déchets. La récup, ce sera aussi un lieu d'atelier, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment de la fabrication, le mouvement des makers. L'idée, c'est à partir d'un maximum d'objets récupérés, de matériaux récupérés, de créer, de soit détourner des objets, soit juste leur redonner une valeur, de leur permettre d'être utilisés à nouveau.
Et ça, c'est sur un champ de produits récupérés particuliers ou c'est sur tous les produits possibles et imaginables?
Alors, le réseau des ressourceries qui a déposé le terme ressourcerie ne veut pas que justement les ressourceries fassent une sélection des produits qu'ils vont collecter. En tout cas, collecter. Après, sur le mode de valorisation, on ne peut pas tout valoriser parce qu'il faut vraiment des savoir-faire sur des champs très, très larges. Donc, de la collecte, on collectera tout. Hormis véhicules à moteur, parce qu'il y en a qui ont demandé déjà si on faisait aussi de la voiture d'occasion, c'est un autre métier. Donc c'est plutôt les biens d'équipement de la personne et du foyer. Donc meubles, textiles, déco, bibelots, loisirs aussi, tout ce qui est lié au sport, au jardinage. On peut imaginer pas mal de choses.
Électroménager,
on collectera aussi. Et c'est vrai que c'est là-dessus où il peut y avoir des attentes auxquelles on ne pourra pas répondre dans un premier temps, parce que réparer l'électroménager... Entre l'obsolescence programmée qui est une réalité, et donc ça veut dire que souvent ça vaut même pas la peine de réparer, et il faut quand même quelqu'un qui a les compétences pour réparer tout cet électroménager. Donc ce qu'on collectera sera testé, si c'est fonctionnel ça pourra être mis en vente, et si c'est pas fonctionnel ça partira dans les réseaux du recyclage, davantage que sur le réemploi. Mais oui voilà, on sera sur une gamme assez large et sur de la valorisation plus créative, davantage sur le bois, donc menuiserie, voilà, tout ce qui est lié au bois et au textile aussi. C'est les deux domaines où on souhaite faire vraiment des ateliers là de valorisation plus poussée.
Oui, parce que dans le jeu de mots, la récup, j'imagine qu'il y a quand même le côté art un petit peu qui s'exprime.
C'est ça, de même qu'au début, le nom de l'association ne s'écrivait pas pareil, il y avait vraiment le mot art qui apparaissait. On a dû changer parce que le terme était déjà utilisé. Mais vraiment, voilà, l'art de récupérer, mais aussi comment des artistes, parce qu'il y a aussi des artistes et des artisans d'art qui utilisent des matériaux de récupération pour leur création. Et on s'est mis en relation avec notamment l'association des métiers d'art en Cévennes, qui organise le festival des métiers d'art au Pont de Montvert, tout à fait. Et lorsqu'on les a rencontrés, eux, ils ont un réseau d'artisans d'art qui... dont une partie utilise des matériaux de récupération. Et notre proposition, c'est de faire aussi une matériothèque où ces artistes peuvent venir puiser leurs matières premières pour créer. Donc on a vraiment envie de développer ce lien avec les métiers d'art sur le territoire de la Lozère.
Et donc...
L'implantation, vous avez déjà une idée?
Ce sera sur Mende. C'est en termes... L'étude...
nous l'a confirmé, on pressentait déjà que c'était plus pertinent en termes de débouchés économiques, parce que même si ce n'est pas notre objectif numéro un, la réalité est que l'association devra quand même avoir des ressources, et pour pouvoir avoir des ressources, c'est la vente des produits, et c'est sûrement qu'il y a le plus fort débouché commercial. Donc ce sera l'amende.
Et pour la collecte, ça se passe comment? C'est sur, c'est les gens qui vous donnent des choses. C'est vous récupérez sur des filières de recyclage déjà existantes ou enfin comment ça se passe?
Alors il y a plusieurs modes de collecte. La collecte, c'est déjà le premier qui est le plus simple et le plus efficace pour la ressourcerie, c'est l'apport volontaire. Donc quiconque souhaite vient sur le site et dépose les objets qu'il souhaite donner. Il y a aussi la collecte sur rendez-vous à domicile. Donc là, qui sera à organiser et à affiner au fur et à mesure du temps, mais pour pouvoir répondre au mieux et au plus rapidement aux personnes qui proposent, parce que le problème, c'est ça, si on appelle et qu'on réagit que deux semaines après, c'est les gens, ils n'ont pas le temps d'attendre qu'on vienne collecter. Donc c'est là, on va, dès que ce sera démarré, s'organiser pour répondre au mieux aux besoins. Mais il y aura de la collecte à domicile. En déchetterie aussi, avec les collectivités locales qui gèrent les déchetteries, il y en a une, donc la collectivité locale communauté de communes Cœur de Lozère, avec qui on est en discussion, pour justement pouvoir accéder aux bennes de réemploi qui vont être installées par le SDE dans la déchetterie, et pour que les gardiens incitent les gens qui ont des objets réutilisables à les mettre dans ce qu'ils sont là, et que la récup puisse venir récupérer ces objets. Et après, il y a aussi des liens avec les entreprises, puisque les professionnels peuvent aussi, lors d'un renouvellement de leur mobilier de bureau, de la literie dans l'hôtellerie, enfin, on peut imaginer plein de choses, faire des dons aux associations, en passant par les éco-organismes, qui sont, vous savez, les 1 euro que vous payez quand vous achetez un électroménager ou un meuble. C'est ces organismes qui gèrent, en fait, le traitement de ces objets une fois qu'ils sont devenus déchets. Et ils favorisent le réemploi quand même, ces éco-organismes. Et donc, en passant par eux, on peut accéder au gisement des professionnels.
Alors là, on a parlé du volet, finalement, des produits, l'entrée, la sortie, etc. Mais derrière, il y a quand même un projet aussi social et d'insertion qui est développé autour de ça.
Alors même plus que derrière, il est devant. Parce que c'est vrai que l'aspect social et l'aspect environnemental sont les deux très présents. Mais l'objectif numéro un, c'est d'abord l'insertion. Et l'association, voilà, a fait une demande d'agrément pour être un atelier chantier d'insertion, avec l'objectif d'accueillir d'ici à la fin 2017 6 personnes en insertion. Et donc sur un atelier chantier d'insertion, voilà, c'est quand même des personnes qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi importantes, qui n'ont pas travaillé depuis de nombreuses années, et de leur proposer à la fois un contrat de travail, une activité valorisante et un accompagnement plus global, en leur permettant de faire des stages en entreprise, en leur faisant découvrir aussi une gamme d'activités larges. Parce que la ressourcerie, c'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'on est à la fois sur des métiers du transport avec la collecte, on est sur des métiers liés à l'artisanat dans les ateliers, sur les métiers de la vente dans la boutique. Donc ça permet à ces gens qui n'ont pas toujours un projet professionnel défini lorsqu'ils arrivent sur le chantier, pardon, c'est la fourchette.
Ouais. On l'avait dit.
de découvrir, voilà, plusieurs métiers, et s'ils n'ont pas encore de projet, en tout cas, en ébaucher un le temps de leur contrat à la récup.
Et c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, finalement, c'est une double conviction à la fois environnementale et à la fois sociale.
Oui, c'est ça. Moi, j'essaie de trouver la phrase qui résume ça, mais c'est vrai que J'ai des fois du mal à la raccourcir, cette phrase, mais voilà, en gros, c'est mettre l'utilité sociale et environnementale de l'activité de récupération au profit de l'insertion des publics embauchés. Et parce que vraiment, le fait de leur dire, cet objet, il était considéré comme un déchet, en travaillant dessus, tu vas lui redonner une valeur marchande, même marchande. En plus, ils ont un emploi, ces personnes-là, donc ça veut dire qu'ils sont plus considérés comme des inutiles pour la société. Donc ça leur redonne aussi un statut. Et tout ça, ça va valoriser leur estime de soi, la confiance en soi. Et ça, c'est des facteurs essentiels pour accéder à l'insertion et à un métier à l'avenir, après le chantier d'insertion. Donc tout ça, c'est lié. Et j'ai pas envie de faire une ressourcerie pour une ressourcerie, ni un chantier d'insertion pour un chantier, mais vraiment que les deux soient associés.
Et comment on en arrive à, enfin personnellement, à avoir ce projet-là? C'est bon, voilà, votre métier est couplé à un intérêt particulier pour les dimensions environnementales. Enfin, qu'est-ce qui fait ce...
Tout à l'heure, vous nous avez parlé de vos origines.
Quel regard vous portez justement sur ce qui se fait en France et peut-être plus particulièrement en Lozère, hein.
Pas plus particulièrement en Lozère. C'est vrai que depuis l'enfance, moi, en Suisse, on a des comportements liés au traitement des déchets, en tout cas, qui sont en avance. C'est vrai que ce que j'ai pu connaître, qui se met en place depuis 15 ans que je suis en France, j'ai grandi avec. Donc c'est un peu décalé. Et donc du coup, moi, voilà, c'est dans ma culture que le tri des déchets, c'est pas quelque chose de nouveau. On le faisait en classe, on le faisait... chaque famille le fait... peut-être pas tous, mais en tout cas une grande majorité est sensibilisée vraiment à ça. Même l'environnement, les gens jettent très peu par terre. Il y a une espèce de conscience environnementale en Suisse qui m'a forcément imprégnée en grandissant là-bas. Et le côté après aussi, ça c'est plus personnel, mais j'ai tendance à récupérer beaucoup. Je me dis que voilà, rien ne se perd.
Tout
se transforme et c'est vraiment ma devise. Et se valorise. Et du coup, voilà, c'est... Je me dis qu'il y a tellement de choses qui passent quand je vais en déchetterie, ça me fait mal au cœur de voir toutes ces choses dans les bennes où je me dis mais on pourrait faire tellement avec cette matière-là, c'est dommage d'en reproduire d'autres dans des usines alors qu'il y a tout est là. Et voilà, donc c'est aussi pour partager ça que j'ai envie de faire ce projet-là.
Et alors, on comprend que vous êtes en phase de lancement de ce projet. Justement, vous en êtes où? Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce qu'on peut commencer à vous apporter des choses? Quand est-ce qu'on peut commencer à en acheter?
J'aimerais bien vous répondre demain.
On est impatients, hein, vous savez. Nous, on nous parle d'un truc, on a envie de le...
Mais il y en a...
Tu as des choses plusieurs à partager, Guillaume, peut-être. Tu veux faire du vide.
On a toujours du vide à faire.
C'est ça. Mais il y a déjà plusieurs personnes qui ont demandé « Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir venir déposer, acheter ?» Donc, pour les dépôts, pour le moment, on n'a pas encore les locaux. Donc, je suis obligée de freiner, même si je vous avoue que des fois, j'aimerais pouvoir répondre favorablement aux propositions de dons. Pour les ateliers... on va en faire un premier lors du salon de la récup et du réemploi. Donc plutôt un atelier de customisation de textile, fabrication de sacs à partir de vêtements récupérés.
Et là, pour le moment, vous êtes combien dans l'association?
Alors, il y a 15 administrateurs, dont 4 personnes morales, moi qui suis en bénévole pour le moment, en attendant d'être salarié. Le jour où ça démarre, étant donné que c'était moi qui ai monté le projet, qui ai mené l'étude, dans la suite logique, ça devrait être moi la responsable de cette structure. Donc on est 16 pour le moment, bénévoles tous, et les adhésions vont être ouvertes très bientôt à tous ceux qui souhaitent adhérer à l'association.
Donc on peut peut-être redire samedi, c'est le salon de la récup
et du réemploi.
Oui,
on
va tu parler. Vas donner les infos.
Oui, oui,
ouais, c'est important.
Oui, j'ai prévu mon...
Oh, super.
J'ai prévu mon petit tract. Hein. Avec moi, c'est à lieu de 10h à 18h à la Halle Saint-Jean à Mende, hein, le 12 novembre, avec... c'est de l'ancienne écriture de la récup sur le tract, parce qu'il est fait depuis un peu plus longtemps. Mais donc il y a des ateliers, il faut s'inscrire d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, pour un certain nombre, les places vont être limitées, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur lozere.fr/SERD2016. Je pense que si vous allez sur le site, il doit y avoir un petit panneau aussi du salon de la récup et du réemploi. Et puis donc la récup, vous nous avez parlé donc de ces customisations de vêtements et confection de sacs. Il sera question aussi d'une carte de vœux en papier, de bijoux en plumes et tissus, de bijoux en capsule de café, de fabriquer un lombricomposteur, de réparation participative sur le petit électroménager, de création d'un cadre miroir en dentelle de carton, de livres pliés en déco, de confectionner ses produits ménagers sans toxiques, un jeu de piste pour les familles. Vous pouvez aussi pendant toute la journée donner vos jeux en bon état pour le Noël des restos. Des braderies de vêtements avec les associations caritatives. Une boutique créative. Vous pouvez aussi pédaler pour faire vous-même votre smoothie. Voilà, et puis il y aura une dégustation de soupe à midi, de soupe anti-gaspi réalisée à partir de légumes abîmés donnés par Hyper-U, et à 15h30, un défilé de mode organisé par les BTS Communication du lycée Notre-Dame. Voilà, donc là aussi, j'imagine, avec peut-être des vêtements customisés le matin, non ?
Peut-être, ça c'est pas encore certain. Voilà. Il y a déjà des vêtements qui ont été sélectionnés, mais voilà. S'il y a des belles créations, pourquoi pas leur proposer le jour même.
Voilà, et puis donc des interventions, un espace documentation, des quiz, et voilà. Donc des choses à découvrir tout au long de cette journée samedi, donc 12 novembre, à la Halle Saint-Jean, de 10h à 18h. L'entrée est libre et gratuite. Voilà.
Et si je peux juste ajouter aussi quelque chose, c'est que donc la récup tiendra ce stand de customisation de vêtements et de fabrication de sacs. On a fait passer par notre page Facebook et par notre réseau un appel aux dons, c'est-à-dire qu'on recherche soit des vêtements à customiser, mais ça, c'est pas tellement la difficulté. Après, ceux qui sont couturiers ou qui ont récupéré des boutons, des dentelles, des rubans, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui permet de customiser un vêtement, on prend les dons, même si c'est le jour même du salon. Un appel aussi aux bénévoles, s'il y a des gens qui ont des compétences en couture, en création textile, ils peuvent venir aussi partager un moment avec nous sur cet atelier pour donner leurs conseils à ceux qui participeront aux ateliers. Et pour ceux qui veulent participer aux ateliers, même si vous n'êtes pas inscrit, il n'y a pas de problème, vous pourrez venir le jour même. Et n'hésitez pas à emmener de chez vous les vêtements ou les choses que vous avez gardées, mais qui sont soit abîmées, que vous avez envie de réparer, ou un t-shirt que vous aimiez bien, vous ne rentrez plus dedans, mais vous avez envie de le transformer et de re-rentrer dedans. C'est tout à fait dans la logique de ce qu'on va proposer. Donc, amenez ce que vous avez chez vous pour le faire sur le salon.
Alors, la météo prévoit d'être très pourrie tout le week-end, donc n'hésitez pas, c'est à l'abri, au chaud.
C'est ça.
Et ça sera très utile.
Voilà, vous pouvez même recycler vos vieux t-shirts dans lesquels vous ne rentrez plus, c'est quand même pas mal du tout. Je pense que j'en ai pas mal à utiliser pour cela.
Avec les vieux t-shirts, on peut faire des super tote bags très simples à faire et sympas.
Bon, mais de toute façon, j'ai prévu de venir, hein. Donc je viendrai faire peut-être mon t-shirt.
Donc déjà un participant pour l'atelier.
Par contre, vous n'avez pas répondu, quand est-ce que ça commence ?
Quand est-ce que ça commence ? Parce que je n'ai pas la réponse, en fait. C'est... on est en attente d'une réponse d'un de nos partenaires, de laquelle découlera tout. Mais on souhaite démarrer avant la fin d'année 2016, l'ouverture du lieu. D'accord. Avec après petit à petit les embauches des personnes en insertion et de l'équipe. Mais vraiment, notre objectif, c'est d'ouvrir le lieu avant la fin de 2016.
D'accord, oui, donc c'est dans les semaines qui viennent, voilà. on l'espère.
On espère.
Caroline.
Alors moi, j'avais une question plus large à vous, Élodie, mais aussi à Eric, parce que je sais qu'il... familialement, il est concerné par la chose, mais je suis toujours un peu ébahie par l'expérience de Bea Johnson aux États-Unis. Vous en avez sûrement entendu parler. C'est cette mère de famille, c'est cette mère de famille qui arrive à faire zéro déchet sur l'année. Alors moi, j'avoue que ça m'épate complètement parce que, alors, j'essaye de jeter le moins possible, mais en tout cas, on envoie au recyclage quand même. Nous, on est quatre à la maison. On a passé là quelques jours pendant les vacances en étant tous les jours, en mangeant tous les jours à la maison. Moi, ça m'impressionne, zéro déchet, parce que vraiment, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, je voulais vous poser la question, savoir, Eric, je sais que vous aviez fait l'expérience de tout ça, savoir un peu où vous en étiez.
On avait fortement réduit, oui. Il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place. Après, c'est vrai qu'il y avait une yaourtière. Au lieu d'acheter les yaourts, c'est de faire sa yaourtière. Nous, on avait ce qui prenait beaucoup de poids, c'était la litière du chat. Donc, il y a de la litière compostable. Ils avaient proposé les poules qui peuvent manger quand même certains déchets. Après, peut-être que c'est plus facile dans une très grande ville que dans une ville un peu plus réduite comme ici. Parce que je sais que, par exemple, le plus facile, c'est de pouvoir acheter en vrac.
Oui, mais bien sûr.
Acheter en vrac, on n'a pas non plus 50 magasins où on peut acheter en vrac ici. Hein. Mm-hmm. Moi, ça fait quelques temps que je ne suis pas allé à Hyper-U, mais...
Il y a un rayon vrac, il y a
Biocop qui propose un rayon vrac, mais il n'y a pas non plus... Donc ça aide beaucoup d'avoir des magasins qui proposent la vente en vrac. Donc ça permet de ne pas... Après, voilà, on va acheter sur les marchés, Il y a plein de petites choses qu'on peut faire, mais c'est vrai que nous, on n'a pas réussi à arriver à zéro déchet,
c'est sûr. Oui, le zéro déchet me paraît vraiment...
Ça, c'est sûr.
Oui, pareil, on est sensibilisé, on fait très attention au tri, à réduire un maximum, mais on est quatre aussi, et avec des enfants, notamment je pense aux enfants en bas âge, alors les couches lavables, je trouve ça génial, mais c'est...
Faut avoir chez les
temps,
autres.
Quoi. Ouais, non, mais non, c'est juste une question de temps, en fait. Donc, rien qu'avec des enfants, quand on parle des couches, juste ça, ça me paraît impossible à réduire, tout simplement, parce qu'on ne va pas les, leur changer moins souvent la couche.
Mais oui,
pour autant.
Il y a plein de petites choses.
Donc, il y a plein de choses sur lesquelles c'est difficile de réduire. Ouais. Alors, on a beau faire un maximum d'efforts, et je pense que si tout le monde fait déjà l'effort de consommer un maximum en vrac, un maximum sur les marchés, c'est déjà bien. Et après, voilà, il faudrait changer bien d'autres choses pour qu'on arrive au zéro déchet.
Bon, alors.
Voilà, merci.
Mais voilà, c'était le petit débat.
Je ne t'ai pas interpellé, mais si tu veux attendre mot à dire, il n'y a pas de souci.
Non, bah déjà, je trie, mais je génère beaucoup de déchets. Hein.
C'est quand même impressionnant.
C'est impressionnant,
Déjà, quand on voit la table, là.
Oui,
c'est sûr.
Et Didier est venu avec son petit tupperware, je le souligne quand même, alors que nous avons notre.
Oui,
nous.
Peut-être vous nous avez parlé de Facebook pour suivre l'actualité de la récup.
Oui.
On le mettra évidemment sur la page de 48FM et sur l'actualité de qui correspondra à l'émission d'aujourd'hui. Oui. Mais peut-être dites-nous d'abord comment on peut vous contacter, comment on peut aussi peut-être participer. Après, ça sera une occasion de pouvoir suivre le projet et de pouvoir s'y impliquer quand il démarrera. Et... Oui.
Donc la page s'appelle La Récup, tout simplement, et elle est liée, alors c'est une page que je gère par mon compte, je ne suis pas une grande professionnelle des réseaux sociaux, c'est donc Elodie Guilloton, je pense qu'en tapant La Récup en Lozère, vous arrivez sur la page assez facilement, et les communications qu'il y a dessus, c'est un peu sur l'avancement du projet, forcément, mais aussi sur les initiatives liées de près ou de loin à la thématique. On parle par exemple du Salon de la Récup et du Réemploi du 12 novembre, mais lorsqu'il y a des événements ou un article qui parle d'un artiste plasticien, par exemple, qui travaille avec la Récup, j'essaye de faire des clins d'œil à ce qui se fait en France et ailleurs, d'ailleurs, sur la Récup.
Bien, très bien. Vous restez avec nous. On continuera à vous faire parler sur les actus qu'on va maintenant découvrir. Et tout de suite, après la virgule, ça sera la chronique média de Caroline. Allez, on repart avec donc cette chronique média.
Et un gagnant,
un gagnant, c'est. Je lui ai dit sur Facebook, donc il n'y a pas de problème. Mott Roujon qui a gagné sa place pour
Si vous n'avez pas gagné, allez-y quand même, vraiment, ça vaut le coup.
Mais sachant qu'il reste encore une place à faire gagner, moins. Donc il y aura une deuxième question dans quelques instants sur la page Facebook, peut-être en lien avec la chronique de Caroline.
Allez, pourquoi pas.
Allez. Alors de quoi vas-tu nous parler ?
Alors je ne vais pas être très très originale puisque ça a quand même fait le gros buzz vendredi dernier et j'avais un petit peu peur qu'Adeline se jette dessus. Mais elle a eu la gentillesse de me le laisser.
Je ne dirai pas les commentaires qui ont été publiés sur cette actu dans notre groupe privé.
En tout cas, je peux dire que j'ai été... Ça n'avait pas fait le buzz de mon côté, je ne l'avais pas vu. Et vous avez été nombreux à me contacter une fois que l'info est parue. Donc bien sûr, je vais vous parler de télé, je vais vous parler de France 2. Et je vais vous parler de l'émission « Mille et une vies » que j'avais déjà évoquée à la rentrée ici même à ce micro. Parce qu'il y a quand même eu un événement ce lundi dans cette émission, puisque Frédéric Lopez, mon animateur préféré, vous le savez tous, a fait son
avec
coming
Laurent
out.
De la Housse.
Non, je crois qu'il était quand même...
Ah, il est quand même
au-dessus. Ouais, il était dans le top 1. Il y reste, soyez rassurés, de suite. voilà. Donc, Frédéric Lopez recevait hier donc Pascal Pellegrino, qui est journaliste et qui s'est notamment fait connaître avec son bouquin « Papa gay, lettre à mon enfant interdit ». Voilà, donc un très beau témoignage, très sensible, à la fin duquel Frédéric Lopez... a fait son coming out et simplement dit, en quelques phrases, son homosexualité. Une homosexualité dont il a eu peur longtemps, a-t-il avoué, mais qu'il accepte aujourd'hui. Et s'il a parlé, s'il a accepté de parler, c'est parce qu'il a été touché par ce témoignage de son invité et qu'il a juste précisé qu'il y a des enfants et des adolescents dans ce pays qui se suicident. Voilà. Et que parce que son invité avait témoigné avec sensibilité et à visage découvert, voilà, Frédéric Lopez a fait ce petit... coming out, précisant bien qu'il ne se justifierait pas et qu'il ne le commenterait pas plus que ça et qu'il n'en parlerait plus publiquement. Voilà. Alors, beaucoup se sont inquiétés de mon état de santé après cette annonce. Alors, je vous rassure, moi, je trouve ça plutôt touchant. J'adore Frédéric Lopez pour sa capacité d'écoute et d'humanité avec les gens. Ça continuera. Il a dit, hein, les gens m'aiment et je ne veux pas qu'ils m'aiment à moitié. Donc voilà, Fred, sois rassuré, je t'aime en entier. Et je continue à dire que si tu veux bien m'inviter, je pars n'importe où en terre inconnue avec toi. Il n'y a pas de souci. J'ai même eu des commentaires parce que je l'ai mis sur mon Facebook. Et certaines copines m'ont même proposé qu'on l'invite en Lozère. Donc oui, Fred Lopez, si tu veux venir en Lopez, en Lozère, tu seras le bienvenu. Voilà, je ne fais pas plus long parce qu'on est un peu à la bourre, je crois.
Oui, non mais tout va bien, voilà. Donc effectivement, c'était l'actu média de la semaine.
Oui, t'es mal placé pour ne pas en parler quand même.
Allez, tout de suite, une virgule et on retrouve la chronique hashtag que nous avons enregistrée dimanche avec Adeline. Vous verrez, le hashtag lozérien était finalement adapté. On avait des doutes et finalement, c'est bon. On se retrouve avec Adeline avant cette émission, puisqu'on a enregistré cette séquence. Et donc, c'est la fameuse séquence hashtag. On a quand même compté sur toi, Adeline, pour cette chronique, cette chronique habituelle dans Los Actuali. Alors, quelles sont les tendances, les mots-clés de cette semaine, de cette quinzaine, sur les réseaux sociaux ?
Alors, donc, rubrique hashtag de cette semaine. Alors, du coup, avec un petit décalage sur les tendances, puisque du coup, on est un petit peu en avance sur le direct du mardi. Mais un hashtag tendance qui est celui de justice pour Adama. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire, l'affaire Adama Traoré. Alors, désolée pour la prononciation, mais c'est une affaire judiciaire qui avait pour origine la mort d'un jeune homme de 24 ans en 2016, qui a été, du coup, qui est mort pendant une interpellation à Beaumont-sur-Oise et dans des conditions encore non éclaircies. Et cette semaine, du coup, s'ouvrait aussi à nouveau des rebondissements judiciaires autour de cette affaire. Donc, un des hashtags très tendance, c'est justice pour Adama. Et du coup, en tout cas, de la part de ses proches et de sa famille, autour du coup de controverses sur son décès pendant cette interpellation. Et puis pour la Lozère, une tendance hashtag neige. Et oui, ça y est, nous y sommes. Donc j'ai fait quelques recherches et je ne trouve que ça cette semaine, que de la neige qui s'annonce en Lozère. Donc voilà, sur un hashtag un peu météo.
Voilà, alors, on enregistre cette chronique dimanche vers 17h et la neige n'est pas encore arrivée jusqu'à Mende, mais il est bien possible qu'il y en ait eu sur
les hauteurs.
Voilà.
Et puis peut-être que d'ici mardi, ça sera toujours d'actualité. Et puis du coup, je voulais aussi profiter de cette chronique cette semaine pour parler d'un autre outil que Twitter, puisque du coup, c'était aussi l'idée dans cette chronique. Et donc, je voulais vous parler d'une petite appli qui s'appelle Periscope. Alors Guillaume, est-ce que tu connais Periscope ?
Alors, je ne l'utilise pas, mais j'ai déjà vu cet outil. C'est en gros un outil de vidéo en direct, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. C'est une application, logicielle, hein, sur appareil mobile, donc iOS ou Android, et qui permet de faire des toutes petites vidéos, des petites captures vidéo en direct. Et du coup, qui après sont diffusés en effet via Twitter. D'ailleurs, c'est un outil qui appartient aujourd'hui à Twitter, puisque Twitter a racheté l'application Periscope en 2015. On vous taira le montant de l'achat parce que c'est à chaque fois colossal. Et en tout cas, l'idée, c'est qu'après s'être inscrit sur Twitter, donc il faut quand même avoir un compte Twitter pour utiliser Periscope, mais vous pouvez diffuser en streaming des vidéos prises n'importe où dans le monde et à n'importe quel moment, du coup. Et elles sont visibles 24 heures après la fin de l'enregistrement. Et puis après, c'est plus possible de les visualiser. Donc vous pouvez choisir de rendre ou pas visible votre vidéo, en tout cas publique, ou uniquement de configurer le direct ouvert à certains utilisateurs ou amis, voilà, ce genre de choses. Quelques du coup infos complémentaires. Depuis janvier 2016, il est aussi possible d'utiliser tous les appareils de caméra embarqués sur lesquels vous pouvez installer Periscope et vous pouvez diffuser vos vidéos via ces caméras-là. Donc voilà, un petit outil qui change un peu et qui nous permet d'explorer un peu aussi le monde des applications. Je pensais qu'on pouvait peut-être, d'ailleurs, on va faire un test dans Los Actuali très prochainement. On pourra essayer de faire une petite captation Periscope pendant une de nos émissions.
Et c'était pas avec cet outil-là qu'il y avait eu une histoire avec un footballeur qui disait du mal de l'entraîneur de l'équipe de France, je crois.
Oui, hein, voilà, il y a eu aussi quelques dérapages chez les politiques. François Hollande, notamment, a eu quelques déboires après avoir lancé un direct avec Periscope, un peu malencontreusement. Donc voilà, c'est vrai que c'est aussi, il y a quelques pépites avec cet outil. Et comme tous les outils et toutes les applications numériques à utiliser. Avec voilà, mesure et...
et en connaissant comment ça fonctionne.
Voilà, et en connaissance de cause, voilà. Absolument.
Et dans les petits outils vidéo, il y en a un qui s'arrête, c'est Vine, qui était aussi en partenariat avec Twitter et qui s'arrête tout prochainement. Quoi.
Tout à fait, ouais. Bah, c'est le cycle des applis de ce genre, en général, voilà, c'est... un cycle un peu de renouvellement constant. Alors, il y a quelques gros réseaux sociaux numériques ou applications qui sont quand même très, très ancrées. Hein, Twitter en est un, Facebook évidemment toujours pas détrôné en termes de nombre de connexions et d'utilisations. Après, ces genres de petites utilisations, voilà, c'est aussi un monde de rachat. Hein, Twitter, Facebook se font un peu la guerre au rachat des applications. Vous connaissez peut-être WhatsApp aussi, qui est une des applications de messagerie instantanée qui a été rachetée par Facebook. Donc voilà, c'est un peu la guerre des clans. Et donc forcément, dans ce jeu-là, il y en a qui disparaissent, il y en a qui renaissent. La course à la nouveauté technologique aussi.
Et voilà, donc toute l'actu de ces réseaux sociaux, c'est bien sûr dans hashtag, voilà. Votre rubrique dans Los Actuali. Et merci
Adeline. N'hésitez pas toujours à utiliser le hashtag Los Actuali, le hashtag 48FM, voilà.
Voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous pendant ces émissions. Et merci Adeline d'avoir pris un petit peu de temps en avant, avant cette émission pour cette capsule.
Ça marche.
Et voilà, on se retrouve en direct cette fois-ci. Donc voilà, elle avait pris quand même des risques, hein, Adeline, avec le hashtag neige. Mais effectivement,
elle a eu du nez quand même.
Il y avait beaucoup, il y avait ce week-end, beaucoup de tweets malgré tout, parce que la neige était un petit peu annoncée, notamment dans le quotidien régional, sur la Lozère. Et donc, notamment des personnalités du Languedoc-Roussillon tweetaient à propos de la Lozère, l'arrivée de la neige, voilà... ancien président de région, par exemple, pour n'en citer qu'un. Voilà. Tu as pas d'autres réactions sur les hashtags évoqués? On pourrait imaginer aussi que hier, le hashtag du jour, c'était aussi ce dont tu vas nous parler revue de presse ce 7 novembre 16h34.
Et demain, ça devrait être ma revue de presse, oui.
Et voilà, et demain, ça devrait être effectivement la revue de presse d'Éric avec les élections américaines. Mais tu disais qu'il y avait aussi autre chose qui
Oui, c'est... Alors, il n'est pas ministre, il est... C'est Jean-Vincent Passé.
Il est secrétaire d'État.
Secrétaire d'État, oui.
Voilà, et dans son petit duel avec le joueur...
Qui s'est fait remettre en place au tournoi de Paris-Bercy par un joueur suisse, donc Stan Wawrinka. Puisqu'il parlait un peu trop fort en tribune et il essayait de se défendre un peu comme un enfant d'école.
Ça n'a pas très bien marché.
Non, ça n'a pas marché du tout.
Alors, aussi, pour être interactif et ne pas vous laisser avec juste une info qu'on vous donne comme ça dans une chronique et qu'on abandonnerait, quand même, il y a eu beaucoup de nouveautés dans tout ce qu'on vous a dit dernièrement. Donc Bob Dylan, notamment, hein, Eric, qui a annoncé, dit sa fierté de recevoir le prix Nobel de littérature et qui a même annoncé qu'il irait à Stockholm le recevoir. Ouais. Donc voilà, puisqu'on s'était posé la question dans cette émission.
Et puis une petite annonce, on vous a parlé des MOOC à plusieurs reprises depuis la rentrée. Alors voilà, le MOOC pâtisserie qui fait suite au MOOC cuisine, laissant un geste essentiel de la cuisine de l'AFPA, est ouvert là depuis quelques jours. Donc précipitez-vous si vous voulez faire de bons gâteaux et de bonnes pâtisseries. Tu as démarré, Eric ?
J'ai juste commencé, ouais. J'ai essayé d'apprendre à éplucher déjà.
D'accord, voilà. Moi, je me suis inscrite sur ce MOOC-là et sur le fameux MOOC Premier Contact en langue chinoise. Je n'en ai démarré pour l'instant aucun.
Ils nous ont encore rien apporté des MOOC cuisine et pâtisserie.
Évidemment, c'est trop tôt, on ne fait qu'éplucher.
Évidemment, on vous montrera tout ça quand ça sera l'occasion dans cette émission sur le Facebook. Justement, un MOOC, mais cette fois-ci de l'autre catégorie, ça va faire le lien avec cette chanson. On en parlera dimanche dans l'émission Nouvelle Scène avec Olivier, en partenariat avec Festivalier La Saison, qui nous parle d'un MOOCin. Alors, c'est encore le MOOC, la revue, hein, cette fois-ci, mais qui est encore plus développé et qui se rapproche du bouquin, donc ça devient le MOOCin. Voilà, comme quoi c'est assez ouvert et on peut
envoyez-nous votre MOOC.
Voilà. Et donc, pour cette deuxième coupure musicale, je vous propose d'écouter Debout sur le Zinc dans un titre qui s'appelle Lampedusa. Donc voilà, c'est aussi bien en raccord avec un certain nombre de choses qu'on a pu se dire tout à l'heure. Et on vous rappelle que Debout sur le Zinc est en concert le 19 novembre à Langogne, que vous pouvez acheter vos places dès maintenant.
Une date phare dans la saison culturelle lausérienne.
Donc, n'hésitez pas, avec Sophie Morin en première partie, et vous pouvez, si vous ne connaissez pas Sophie Morin, vous pouvez écouter l'émission de dimanche 21h sur 48FM, vous entendrez du Sophie Morin, du Debout sur le Zinc, enfin voilà, plein de choses pour vous mettre en appétit avant cette soirée du 19 novembre à Langogne. C'est parti.
Ta chance à bord de ce bateau, t'imaginais la France comme un Eldorado. Contre vents et marées, tu es resté debout. La Méditerranée avait une fin de l'eau. De l'eau. Est-ce que je serai le bienvenu chez vous? Ah, est-ce que je serai le bienvenu? C'est tout. Tu rêvais d'Europe quand sa mythologie, gorgones et cyclopes restaient sourds à tes cris. Maudits chants des sirènes, leurs promesses de bonheur, elles t'ont poussé sans peine à surmonter ta peur. Ta peur. Est-ce que je serai le bienvenu chez vous? Ah, est-ce que je serai le bienvenu? C'est tout. Est-ce que je serai le bienvenu chez vous? Ah, est-ce que je serai le bienvenu? C'est tout. Mais les royaumes enchantés sont régis par des lois, et les contes de fées soumis à des quotas. Tes espoirs sont échoués au bord de la lagune, tes rêves sont enterrés dans une fosse commune. Tu n'étais pas le bienvenu chez nous, non. Tu n'étais pas le bienvenu, c'est tout. Car tu n'étais pas le bienvenu chez nous, non. Tu n'étais pas le bienvenu, c'est tout. Lampedusa, pense ses plaies au petit matin. Cette nuit, la mort a frappé moi, je n'y pouvais rien. Lampedusa, pense ses plaies au petit matin. Cette nuit, la mort a frappé moi. Moi j'étais trop loin.
On commence cette revue de presse avec l'article que propose Adeline. Et alors Adeline, qu'est-ce que tu as repéré dans la presse de ces derniers jours ?
Alors, je suis tombée complètement par hasard hier sur une émission du magazine Future Mag, donc qui est le magazine autour de la culture numérique de Arte, donc que vous pouvez retrouver sur Arte et puis en ligne aussi. Et donc, sur un petit reportage qui parle du domaine de la culture et plus particulièrement du domaine de la peinture. Et j'ai été extrêmement bluffée et je voulais absolument vous en parler cette semaine. Alors, dans les grandes lignes, c'est une aventure scientifique qui a commencé il y a 3 ans à La Haye. Avec une équipe de scientifiques, d'historiens de l'art et d'analystes de données, d'informaticiens, qui se sont lancés le pari un peu fou de copier à l'identique un autoportrait de Rembrandt, donc le peintre Rembrandt, mort il y a maintenant 400 ans. Et donc, ils se sont lancés ce défi de reproduire à l'identique cet autoportrait de 1669. Alors, pour cela, ils ont numérisé la toile, premièrement, ils ont... évidemment, fait plusieurs tests en 2D et puis en 3D, puisque l'idée, c'était d'imprimer la copie de ce Rembrandt à l'aide d'une imprimante 3D. Alors vraiment, je vous invite à regarder le reportage. Le reportage dure entre 8 et 10 minutes et le rendu est extrêmement fidèle. C'est vraiment bluffant. En tout cas, moi, j'ai été bluffée. Et c'est vrai que du coup, ça a plusieurs avantages au-delà de la prouesse technique que ça représente. C'est aussi du coup l'occasion d'approcher des œuvres pour lesquelles les originaux peuvent être endommagés ou en tout cas nécessitent une restauration. Voilà, ça permet au public d'être plus en interaction aussi avec ces toiles, de pouvoir les toucher, de pouvoir il y a quelque chose qui rapproche en fait un petit peu la culture et la peinture du public. Alors ça, c'est une première partie qui déjà m'avait, moi, complètement scotchée. Et puis, en fait, cette équipe de scientifiques a voulu aller plus loin encore, parce que cette histoire de copie, c'était leur première étape dans l'expérience. Et puis, ils ont ensuite tenté non plus de copier, mais de recréer un nouveau tableau, donc 400 ans après la mort de l'artiste, en utilisant l'intelligence artificielle. Alors, ça a nécessité 18 mois de travail pour l'équipe d'Emmanuel Flores, donc le directeur technique des opérations. Alors, il a d'abord fallu mesurer, en fait... plein de paramètres, notamment définir des algorithmes qui expliquent donc et qui vont reprendre les notions de clair-obscur, par exemple, définir des algorithmes pour repérer les caractéristiques types de la peinture de Rembrandt. Donc, ils ont utilisé pour ça plus de 300 portraits, 300 toiles qu'a peint le peintre. Et donc, ils les ont passés sous toutes les coutures pour essayer d'en définir des statistiques. Et l'idée, c'était de pouvoir définir du coup les contours d'un personnage imaginaire qu'aurait pu peindre Rembrandt. Et donc, du coup, ils ont reproduit des modèles types de cheveux, de bouche, d'oreilles, de yeux. Ils ont sorti une espèce de calcul, j'imagine, incompréhensible pour nous, en tout cas. Et l'ordinateur a mis plus de 500 heures à calculer ces algorithmes et a donné naissance à un tableau en 2 dimensions totalement saisissant. Sauf que une toile, c'est aussi du relief, c'est aussi du coup de la matière. Et il a fallu aussi, pour le coup, cette fois-ci, aussi repasser le tableau en 3 dimensions. Et donc pour ça, ils ont à nouveau mesuré les différentes couches de peinture à la manière d'une carte topographique pour définir les reliefs. Et ils ont rajouté à la 2 dimensions une 3e dimension grâce à l'impression 3D. Et donc ils ont clairement donné naissance pour la première fois au monde à un nouveau Rembrandt et ont réussi à concevoir un nouveau portrait qui aurait pu être imaginé par le peintre. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que non seulement moi, de mon œil absolument pas connaisseuse, j'ai trouvé ça époustouflant, mais à la fin du reportage, il y a aussi des avis de conservateurs, de restaurateurs d'art, et ils sont tous d'accord pour dire que la poésie de l'artiste est intacte dans ce tableau-là, que le rendu est époustouflant. Alors évidemment, on n'a pas le rendu de...
C'est quand même de la poésie numérique, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors, après, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment impressionnant, mais c'est vrai que le seul bémol, c'est que l'intelligence artificielle et les algorithmes donc, qui ont été utilisés n'ont pas encore recréé le vieillissement de la toile, les craquelures du temps ou de la peinture. En tout cas, pas encore. Mais voilà, à suivre. C'est déjà une prouesse technique et scientifique dans le monde de l'art. Et moi, j'ai trouvé ce reportage passionnant. Je vous invite à aller le regarder dans son entièreté sur futuremag.fr.
Je crois qu'il y a eu une même démarche qui a été faite aussi en musique. Alors, je ne sais plus avec quel... Quel le groupe, je me demande si c'est pas avec les Beatles que ça a été fait, et pour recréer une chanson
en utilisant l'intelligence artificielle du coup. Et ouais non mais c'est impressionnant.
Ouais, les pauvres créateurs d'aujourd'hui qui
et en même temps ça permet de prolonger aussi finalement la vie de certains de certaines œuvres, ou en tout cas la poésie de certains artistes qui sont toujours vivants et du coup toujours d'actualité, même avec de nouvelles matières.
Voilà. Bien, ben voilà, on pourra tester maintenant la création de tableaux par imprimante 3D.
Une des possibilités de l'imprimante 3D, en tout cas, c'est impressionnant. Allez jeter un œil.
Merci Adeline pour ce choix dans la presse, donc là plutôt en vidéo, mais ouais. Voilà, une revue d'intérêt, en tous les cas, repérée sur le net. Merci.
Merci.
Allez, on continue maintenant en direct cette revue de presse et on va vite donner la parole à Eric qui doit s'en aller et qui voulait nous parler des élections américaines.
C'est ça, donc je vais faire vite comme tu viens de le dire. Donc ça y est, le marathon électoral aux États-Unis est en train de se terminer et nous saurons demain qui va succéder donc aux 8...
Cette nuit pour les plus courageux. Hein.
Oui, ou cette nuit pour les plus courageux. Qui va succéder aux 8 dernières années de présidence du très charismatique Barack Obama. Donc au départ, en fait, je voulais vous expliquer un peu ce que c'était que les élections américaines pour les nuls, comment ça marche. Donc il faut savoir que ça a commencé...
On publiera ça sur Facebook, si tu veux.
Ça a commencé en janvier, donc alors je vais aller très vite, puisque eux, ils font des primaires, des caucus, les élections. Donc en fait, pour résumer, ce sont les électeurs qui élisent des délégués, qui élisent des délégués de comté, qui élisent des délégués de district, qui élisent les candidats de leur parti... qui pourront se présenter et être élus par des grands électeurs qui ont eux-mêmes été élus par les électeurs. Donc j'espère que j'ai été assez simple. Et après, pour donner une idée là, des deux candidats qui restent en lice, des deux plus gros candidats, puisqu'il y a deux grands partis aux États-Unis surtout, donc les démocrates et les républicains. Donc il faut savoir que côté républicain, si on devait comparer en France, donc en fait c'est un peu comme si... Bernadette Chirac se présentait aux élections donc l'année prochaine, vu que Hillary Clinton est l'ancienne femme du président Clinton. Et si on devait comparer Donald Trump donc à des personnages français, parce que lui c'est pas un seul personnage, hein, il y en a plusieurs, j'ai l'impression un peu dans sa tête. Donc moi j'aurais dit donc un peu un Serge Dassault avec le bronzage de Jacques Segala, le parler de Jean-Marie Bigard et les idées de...
Il n'a pas d'idée.
Non, il n'a pas d'idée. il a que ses propres idées, en effet, Donald Trump. Donc voilà, donc nous saurons demain quel est le... On va tous regarder ça parce que dans la conjoncture actuelle, ça peut quand même avoir une certaine importance,
bien
ces
sûr,
élections.
Bien sûr.
Voilà, et juste, on publiera aussi un article que j'ai partagé, qui a fait un peu rire dans notre petit groupe.
Jamais vu, ça conforte ton article, on n'a jamais vu autant d'engagement.
Donald Trump, et là c'est donc, ils font le poirier nu contre Donald Trump. C'est effectivement un article assez marrant, de Europe1.fr. Voilà, donc effectivement, à suivre évidemment dans le. Dans cette nuit américaine qui va avoir lieu cette nuit. Merci Eric.
Les électeurs commencent déjà à voter. Ouais.
Merci Eric.
Merci. À bientôt.
À bientôt. Alors moi j'avais prévu de vous parler un petit peu d'e-télé parce que effectivement ça fait 4 semaines que la grève bat son plein à e-télé. Un peu une situation de blocage complet, une direction qui répond sur des questions sociales, hein, encourageant ces journalistes à quitter e-télé, hein, avec un guichet de sortie, avec des indemnités qui ont été définies, et en même temps, de l'autre côté, des revendications, notamment pour le syndicat des journalistes, enfin la société des journalistes de la chaîne, qui dit que, enfin voilà, qui reconduit son mouvement chaque jour. Avec les mêmes revendications, le retrait définitif de l'antenne de Jean-Marc Morandini, le non-cumul des deux postes pour Serge Nedjar, qui est à la fois directeur de la chaîne et directeur de la rédaction, donc voilà, pour séparer finalement les décisions de l'actionnaire et pour la gestion de la chaîne et la gestion éditoriale finalement de la chaîne. et l'élaboration d'une charte déontologique et d'un projet stratégique éditorial clair pour la future CNews. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même le plus long conflit dans une chaîne de télévision privée en France qui a lieu en ce moment. Et ça semble pas très facile à se débloquer. Voilà. Donc c'était juste pour faire un petit... voilà, comme les questions de liberté et de médias nous occupent souvent, c'était l'occasion d'en parler un petit peu aujourd'hui. Caroline, 16h34, hier, que s'est-il passé ?
Eh ben moi, j'ai arrêté de travailler, comme beaucoup de femmes françaises. C'était un appel de Les Glorieuses, qui avait été rejointe par les Effrontées, donc deux mouvements féministes. Alors, les Glorieuses ont fait le calcul, en raison de l'écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes, qui est en moyenne de 19% en France, de 15% en Europe, on fait le calcul qu'à partir de cette date et de cette heure, les femmes en moyenne allaient travailler bénévolement jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc c'était un appel très très symbolique, mais qui s'inspirait des Islandaises, hein, qui avaient fait ça en 1975 déjà. À l'époque, 90% des femmes s'étaient arrêtées dans ce pays pour protester contre cette inégalité salariale. Elles ont remis ça le 24 octobre. Et donc, c'est inspiré de ce mouvement que cet appel a été lancé. Voilà. Donc moi, j'avoue avoir fait une pause hier d'une demi-heure. J'ai fini quand même le journal bénévolement ensuite, parce que j'étais avec un collègue qui, peut-être tout seul, aurait eu du mal. Non pas qu'il soit un homme, hein, c'est pas ce que je veux dire. Travestissez pas mes propos, mais parce que ça aurait été compliqué pour lui. Donc, avec une autre collègue, nous avons bénévolement fini le journal hier soir. Voilà. Je pense que c'est important parce que quand même, cet écart perdure. Ça reste un des combats à mener pour cette inégalité salariale, contre cette inégalité salariale. Voilà.
Très bien. Mais
donc, bien sûr, ça a fait un gros buzz aussi, un hashtag 7 novembre, 16h34 hier, et ça a été repris un petit peu partout. Donc, un bon dossier hier dans l'IB pour la revue de presse.
Oui, et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça permet de. Enfin, cette matérialisation, en fait, dans le temps, permet de bien se rendre compte, justement, de cet écart. Parce exactement. Que c'est quelque chose qu'on palpe beaucoup
oui, quand
plus
on dit
finalement.
19%, finalement, voilà. On n'imagine pas quand on le reporte.
Voilà, c'est un peu comme l'usage des ressources de la planète, où chaque fois fin août, début septembre, on nous dit que on a consommé toutes les ressources que la planète pouvait fournir. Enfin, ça donne finalement
bien
beaucoup
sûr,
plus de d'images. Bon.
Voilà, alors j'avais une petite devinette à vous poser du coup avec cette actu. Savez-vous qui a dit en 1978 « Pour moi, la femme idéale, c'est la femme corrézienne », je vous donne un petit indice là, « celle de l'ancien temps, dure à la peine, qui sert les hommes à table, ne s'assied jamais avec eux et ne parle pas ».
Ah bah peut-être Jacques Chirac.
Et voilà, Jacques Chirac en 1978 au Figaro Magazine.
Ouais, salut.
Les temps changent, mais doucement.
Un salut à Bernadette.
Trop doucement, parce qu'on en parlait tout à l'heure.
Voilà.
Élodie, vous n'avez pas cessé le travail, puisque vous êtes bénévole, vous nous avez dit.
Je suis et salariée et
d'accord.
D'une autre association
d'accord.
Pour
okay.
le moment. Et
c'est un mouvement qui vous touche ?
Oh, oui, complètement. Bah, l'égalité salariale, ça devrait même plus être un débat.
Bien sûr.
Malheureusement, ça l'est encore.
Ouais.
Voilà, donc on vous rappelle que vous pouvez bientôt participer au projet de l'Art Récup, que vous pouvez dès ce samedi rencontrer l'équipe de l'Art Récup et puis découvrir plein d'autres animations au 3e salon de la Récup et du Réemploi. C'est à la Halle Saint-Jean de 10h à 18h, donc ce samedi, voilà, avec plein d'ateliers, des choses à découvrir diverses et variées. Voilà, on vous souhaite en tous les cas une très bonne quinzaine. Et on espère, la quinzaine prochaine, vous proposer une émission un petit peu spéciale, qui sera a priori pas faite en direct, mais qui sera enregistrée quelque part. On vous laisse plein de surprises.
Un petit avant-goût de Noël.
Voilà, hein, l'idée c'est ça. Et logiquement, on devrait entamer une série assez sympathique. Il devrait être question de différents produits en vue des fêtes de Noël. Donc restez bien sûr à l'écoute de Los Actuali. Et on vous souhaite une très bonne quinzaine.
On peut réécouter le mardi à 19h et le
jeudi à 19h et le mardi à midi et demi.
Voilà, je vais vous perdre.
Voilà, et donc n'hésitez pas évidemment à nous dire aussi si cette émission vous plaît ou vous plaît pas sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, on est tout à fait ouvert à toutes les critiques et à améliorer encore cette émission. À bientôt.
Bonne quinzaine.
Merci beaucoup pour cette invitation.
L'Oz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
L'Oz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Oz Actuali, le nouveau magazine de 48FM.